Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Pourquoi la santé mentale reste-t-elle encore un tabou? Pourquoi souffrir de dépression, de schizophrénie, d'un trouble bipolaire ou d'un handicap psychique reste encore stigmatisé? Un tabou qui peut peser sur le mal-être des patients, mais les choses changent petit à petit. Troubles anxieux, épisodes dépressifs, la souffrance psychologique a été l'un des effets secondaires de la crise sanitaire. Et depuis le début de la pandémie de Covid-19, la parole s'est libérée, notamment chez des personnalités connues, même s'il reste encore un long chemin à parcourir. N'hésitez pas à témoigner sur le tabou de la santé mentale au 01 45 24 7000 en nous laissant un message, une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Baptiste Beaulieu, bienvenue.
Bonjour Ali.
Médecin et romancier en duplex de Toulouse, quel est le menu de votre chronique? Alors voilà.
Je vous confie un petit instant poétique et suspendu dans le temps vécu lors d'une visite à domicile.
A tout à l'heure Baptiste, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Ali Rebéi, grand bien vous fasse.
Antoine, on commence.
La dépression, c'est une maladie invisible, donc indicible. Alors tu te tais, pour ne pas rajouter à la douleur de ton état, celle du rejet. T'apprends à donner le change, t'essaies de te souvenir comment c'était quand t'étais pas comme ça. T'essaies d'esquisser un sourire au bon moment. Tu tentes de suivre la conversation alors que tout va trop vite pour toi. Mais ça, les autres, souvent, ils ne le voient pas. Il voit juste un mec un peu ailleurs, un peu triste, genre ça ira mieux demain. Personne ne se rend compte de ce qu'on exige des déprimés. Faire des efforts. Toi, on te demande de faire un effort pour vivre et vouloir vivre.
Extrait d'une campagne de sensibilisation sur la dépression, c'était en 2019. Bonjour Katel Pouliquen.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste et directrice des rédactions du groupe Marie-Claire et vous proposez dans le Marie-Claire de ce mois-ci un papier consacré au tabou de la santé mentale. Bonjour docteur Aurélia Schneider.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychiatre spécialisé dans les thérapies comportementales et cognitives et vous avez récemment publié chez Larousse une version illustrée par le dessinateur Museau de votre livre « La charge mentale des femmes et celle des hommes ». Bonjour docteur Guillaume Font.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychiatre à l'hôpital La Conception à Marseille et vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Aix-Marseille et vous avez publié « Je fais de ma vie un grand projet » publié chez Flammarion. Bonjour Jean-Victor Blanc, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et vous publiez chez Plomb, Pop and Psy. C'était publié l'année dernière je crois, c'est ça?
Exactement.
Alors, quand vous avez choisi la psychiatrie comme spécialité, comment étiez-vous perçu par vos co-religionnaires de la fac de médecine, docteur Schneider?
C'est une bonne question. Alors, c'est terrible parce que je vois que j'ai vieilli quand même. Parce qu'à l'époque, quand j'ai pris la psychiatrie, on était quand même les parents pauvres. C'était, psychiatre. Ce qui était bien, c'était de faire ophtalmo, cardio. Là maintenant, le choix de psychiatre se prend plus tôt dans la nomination au concours.
Mais quel était le regard à l'époque?
Le regard était un regard assez péjoratif, puisque on n'allait pas vraiment soigner les patients, en fait. On allait faire une psychiatrie, c'est-à-dire des choses intellectuelles. Enfin, je pense que c'était vraiment, il y a de ça 30 ans, très difficile de faire la psychiatrie.
Docteur Guillaume Font.
Je partage ce point de vue. En fait, c'est que maintenant, la psychiatrie a beaucoup évolué. Et je passe un message pour tous les étudiants qui se posent la question. C'est une discipline fabuleuse, en fait. On voit depuis 10 ans des nouvelles découvertes absolument fascinantes. Et c'est la discipline qui étudie les liens entre l'esprit et le corps. Donc ça n'a pas de prix.
Docteur Blanc, il y a encore un tabou autour de cette spécialité chez les étudiants?
Il y a effectivement encore beaucoup de tabous autour de cette spécialité, même si les choses ont évolué. C'est vrai qu'à la fac de médecine, ça reste un choix qui est un peu vu par défaut. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'en termes de rôle modèle, en fait, les professeurs universitaires considèrent qu'un étudiant brillant ne devrait pas faire psychiatrie. Et c'est une idée reçue qu'on a pu me dire plusieurs fois, de se dire, si tu as choisi psychiatrie, c'est parce que tu avais raté ton concours ou tu pouvais pas faire autre chose, ce qui n'était pas le cas. Mais on voit à quel point ça continue de diffuser un peu cette image d'un psy qui finalement serait pas quelqu'un de brillant, qui ferait un peu ça par défaut.
Baptiste Beaulieu, vous confirmez?
Moi, je confirme, j'ai passé mon internat il y a un peu moins de 10 ans maintenant, et à l'époque, c'est bizarre parce que c'était à la fois vu comme quelque chose de très sophistiqué, et en même temps, et c'est vrai, c'est un choix par défaut, ou en tout cas, qui est un peu rebutant pour beaucoup d'entre nous, mais je crois que c'est lié surtout à la manière dont la société, plus globalement, évalue la santé mentale, et notamment... Ce terme-là, il faut qu'on le dise à un moment donné, on vit dans une société très psychophobe où tout ce qui a trait à la santé mentale est vu de manière très péjorative.
Qu'a-t-elle Pouliquen ?
Oui, alors je ne suis pas médecin, je ne suis que journaliste, mais c'est vrai que ça fait écho au tabou en fait que l'on observe dans la société et peut-être dans la société française en particulier, beaucoup plus encore que dans les pays anglo-saxons. On a vu beaucoup de stars américaines, mais aussi des gymnastes, beaucoup de femmes en particulier, parler publiquement de leur dépression, de leurs troubles bipolaires, de leur dépression postpartum, et ça fait un bien fou évidemment aux femmes. En général, malheureusement en France, on cherche un peu désespérément une prise de parole publique pour témoigner. J'ai fait une dépression, j'ai souffert de postpartum. Ça commence bien sûr à se libérer, cette parole commence à être entendue, mais c'est encore très difficile de recueillir ce type de témoignage. Donc je pense que ce tabou fait écho à celui que vous évoquez en tant que médecin.
Baptiste Beaulieu, à Toulouse, vous connaissez l'hôpital Marchand, c'est un établissement spécialisé dans la psychiatrie et la santé mentale, et dans les années 80-90, je me souviens qu'il était stigmatisant, j'habitais Toulouse, d'être hospitalisé à l'hôpital Marchand, et je me souviens de l'expression « il ou elle va finir à Marchand », et on pourrait dire la même chose de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, être hospitalisé en hôpital psychiatrique, ça reste encore stigmatisant, ça reste un tabou.
Oui, c'est une honte.
C'est une honte, Baptiste Beaulieu.
Le fait d'aller voir un psychiatre, c'est encore compliqué pour certaines personnes de le dire, mais parce qu'on vit dans une société où on voudrait tout contrôler, et dire je vais chez un psychiatre, c'est aussi dire il y a des choses que je ne peux pas contrôler dans ma vie, et donc c'est vécu un peu comme un aveu de faiblesse, alors que on devrait tous pouvoir avoir quelqu'un vers qui se tourner quand nos défenses psychiques s'effondrent, quoi.
Docteur Schneider.
Oui, alors pour dire aussi un petit truc drôle. Quand on faisait psychiatrie, c'était qu'on avait un problème à régler. Hein. Il y avait ça aussi. Voilà. Mais tout à fait d'accord avec Baptiste Beaulieu. Les vieux clichés ont la peau dure. Hein. C'est-à-dire que c'est être faible, il faut s'en sortir par soi-même, il faut se botter les fesses. Je pense qu'il y a encore, on est encore soumis à ce type de diktat.
Docteur Guillaume Font, au fond, le tabou de la santé mentale, c'est le tabou qui entoure la folie.
Oui, et en même temps, c'est tout le monde a quelqu'un dans sa famille ou proche de lui qui a eu un problème de santé mentale. Donc c'est un faux tabou parce que toutes les personnes y sont confrontées. Quand on voit la prévalence des troubles mentaux en France, 10% des Français qui font une dépression actuellement, donc à un instant T, et 20% au cours de leur vie, c'est énorme. Il y a des troubles anxieux qui sont extrêmement fréquents. Et à côté de ça, effectivement, ce qu'on appelle la folie en pratique, c'est les troubles psychotiques, la perte de contact avec la réalité, qui eux par contre sont plutôt rares, parce que c'est 0,7% de la population, mais ça représente quand même entre 500 000 et 600 000 personnes en France.
Oui, mais tout de même, ne pas parler de sa santé mentale pour ne pas être pris pour un fou. Je cite la psychiatre Fatma Bouvet de la Maisonneuve dans Marie-Claire, qui dit « c'est comme si consulter était l'annonce de la bascule dans un autre monde ». Jean-Victor Blanc.
Effectivement, c'est la double peine, c'est être malade et devoir cacher qu'on est malade, voire devoir prouver qu'on est malade dans certains cas. Donc on voit que finalement, les personnes atteintes de troubles psychiques, ils sont vraiment à une convergence de stigmatisation sociale qui fait qu'aujourd'hui encore, même si je pense qu'on va le dire, les choses évoluent et évoluent plutôt dans le bon sens, ça reste encore un chemin un peu du combattant, et cela indépendamment du fait qu'en plus, l'offre de soins n'est pas forcément à la hauteur. Mais là, pour le coup, c'est encore un autre débat.
Qu'a-t-elle Pouliquen ?
Oui, je rebondis sur les chiffres qui ont été donnés. Une personne sur 10 peut être touchée par une dépression dans le monde, et pour les femmes, on arrive à des chiffres de une personne, une femme sur cinq. Donc les femmes souvent accumulent en fait les difficultés, le poids du tabou pèse parfois encore plus lourdement sur leurs épaules. Et pendant la période de Covid, pendant les confinements, on a fait nous plusieurs sujets dans Marie-Claire là-dessus, sur la violence évidemment des confinements qui a pesé de manière très très disparate évidemment en fonction des situations sociales, économiques, etc. Mais le point commun quand même, c'est que les femmes ont payé un très 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 lourd tribut et avec encore une fois souvent le poids du secret aussi caché qu'on va mal, ça aggrave encore une fois la difficulté.
Docteur Schneider, grande spécialiste de la charge mentale des femmes.
Alors il y a la charge mentale qui a pesé sur les femmes, mais il y a aussi une autre chose pour les femmes. Les femmes, elles cumulent les facteurs de risque, c'est-à-dire que les grossesses sont des périodes extrêmement compliquées. Le postpartum fait des ravages, hein, que ce soit un baby blues ou plus grave que ça. On s'en sort toujours, mais quelle lourdeur. Et puis aussi, n'oublions pas que les pauvres femmes, pendant leur période d'activité génitale, elles ont des règles, elles ont des syndromes prémenstruels. Moi, je vois des patientes qui parfois sont complètement déprimées pendant 8 jours par mois. Enfin, oui, effectivement, les femmes ont des raisons en plus d'aller mal.
Et des raisons en plus de porter le poids du tabou, en effet. C'est-à-dire que sur la dépression postpartum, des livres commencent à sortir, des études sont faites. Il y a un tabou encore qui est très peu évoqué, c'est le suicide par exemple des femmes pendant cette période de postpartum. Il y a quelques chiffres que j'ai lus là-dessus et on est en train de s'y intéresser à Marie-Claire, parce que pour le coup, c'est un sujet qui est un impensé encore. On peut pas imaginer que quand on donne la vie, on aille très mal, au point peut-être de mettre sa propre vie en danger. Donc c'est vrai que ce sont des sujets dont on s'empare, nous, en tant que magazine féminin, puisqu'on est là pour ça, en quelque sorte. Mais c'est vrai que le travail reste immense pour écouter les femmes et essayer de leur répondre.
Et puis alors, justement, un truc hyper culpabilisant, c'est « tu as tout pour être heureuse ». Et en général, c'est ce qu'on entendait dans votre petite dans enregistrement tout à l'heure. Oui, on a tout pour être heureux. Et pourquoi on est déprimé ? C'est d'autant plus culpabilisant. Donc il y a la honte et il y a la culpabilité. Et vraiment, c'est difficile d'avoir des troubles mentaux.
Et au travail aussi, c'est difficile d'en parler. C'est-à-dire qu'on peut être arrêté parce qu'on se casse le dos, parce qu'on a une pathologie extrêmement grave. Dire qu'on est arrêté parce qu'on fait une dépression, je pense que c'est encore extrêmement difficile à assumer.
Alors à propos du tabou qui entoure la santé mentale, il faut dire que des images de la psychiatrie dans la culture populaire ont contribué au stigmate, Jean-Victor Blanc.
Alors effectivement, si on regarde un peu les films d'il y a plus d'une vingtaine d'années, alors le fameux Vol au-dessus d'un nid de coucou ou Une vie volée, qui est un peu le pendant féminin de ce film-là avec Winona Ryder et Angelina Jolie, on voit qu'on était sur des représentations qui étaient encore très très archaïques, où finalement l'hôpital psy en général, c'est la dernière étape avant la lobotomie ou les électrochocs et sans trop d'espoir. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, pour le coup, ce regard-là, il se modifie, notamment parce que beaucoup de personnes concernées, notamment beaucoup de femmes concernées, prennent la parole sur le sujet ou en font un médium artistique. Si on regarde ne serait-ce que récemment un film comme Les Intranquilles par exemple, qui porte un très joli regard sur le trouble bipolaire et sur ce que ça peut faire vivre aussi à l'entourage, c'est sûr que heureusement on sort un peu de ces représentations-là et finalement ça permet aux personnes de consulter. Pour rebondir sur ce que disaient Aurélia et Catel juste avant, ce qui est en même temps très intéressant de constater, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui justement vont prendre la parole autour de la santé mentale, ça va être beaucoup les femmes, et encore plus les femmes racisées, et on voit que justement, quand on parle de psychophobie, c'est pas pour rien.
Alors, Catel Pouliquen, vous le disiez, on assiste à une libération de la parole avec des stars internationales qui s'engagent, comme la chanteuse américaine Selena Gomez, âgée de 29 ans, je la cite, à tous ceux qui souffrent en ce moment, j'espère que vous n'êtes pas seul, a-t-elle écrit sur son compte Instagram, invitant ses fans à ne plus taire leur détresse psychologique et à les inciter à chercher de l'aide.
Absolument. Et ce qui est intéressant avec Selena Gomez, c'est qu'elle a aussi expliqué qu'elle souffrait d'une maladie auto-immune, le lupus. Et en quelque sorte, elle a rendu public ses mots de façon un peu équivalente. C'est-à-dire, en gros, je peux témoigner publiquement que je souffre d'une maladie physique, mais idem pour ma santé mentale. Et donc, ça fait énormément de bien, en effet. C'est un personnage très important dans la pop culture et Jean-Victor On parlera certainement très bien aussi. Elle a fait beaucoup de bien parce que ça fait des années, ça fait 5-6 ans qu'elle en parle publiquement. Elle n'a que 29 ans, mais elle est très active sur ce point. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, en Angleterre, on a vu beaucoup de personnalités. Je pense à Meghan Markle et son époux Harry. Meghan Markle a parlé de ses pensées suicidaires. Harry coproduit un film avec un documentaire avec Oprah Winfrey sur la santé mentale. Lady Gaga a parlé de ses scarifications. J'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. Les athlètes, cet été, on a vu plusieurs athlètes parler de questions de santé mentale, voire expliquer publiquement qu'elles cessaient la haute compétition pour un temps, le temps de se soigner justement. Je pense à Simone Biles par exemple, qui est une athlète américaine, ou à Naomi Osaka, qui est une tenniswoman, qui a interrompu Roland-Garros pour mettre ce sujet sur la place publique. Et évidemment, ça fait un bien fou aux jeunes femmes, aux jeunes hommes qui entendent ça, il n'y a pas d'âge d'ailleurs, à tout le monde je pense. Ça fait du bien.
Docteur Jean-Victor Blanc, il est important que toutes ces personnalités connues du grand public témoignent de leur maladie, de leurs troubles psychiques.
Effectivement, c'est je pense dans finalement les choses récentes qui sont arrivées en psychiatrie, c'est finalement au-delà des découvertes scientifiques la chose majeure, la chose la plus importante. Si on prend ne serait-ce que l'exemple de Britney Spears dont on a beaucoup parlé récemment, alors effectivement il y a toute une saga autour de la tutelle, la levée de la tutelle, etc. Il faut savoir que cette saga qu'on pourrait regarder comme un phénomène people, finalement est en train de permettre à une loi aux États-Unis d'accoucher qui va s'appeler le Free Britney Act, où en fait la personne sous tutelle ou sous curatelle pourra avoir un droit de regard sur son tuteur ou son curateur. Donc on voit bien qu'au final ce sujet il est central, et que c'est finalement ce qui va probablement, en tout cas moi je l'espère au plus profond de moi, va pouvoir permettre à la psychiatrie d'évoluer et au regard qu'on porte surtout sur la santé mentale d'évoluer.
Docteur Guillaume Font.
Je suis tout à fait d'accord, et en même temps je trouve que ce sera important que les hommes parlent plus, parce qu'effectivement les troubles de santé mentale, donc la dépression est plus fréquente chez les femmes, ça c'est une réalité, et il y a toutes les difficultés qu'on a évoquées, mais par contre c'est quand même associé à une faiblesse et quelque chose qui n'est pas viril. Donc ça, je pense qu'on manque vraiment quelque chose dans la représentation autour de personnalités, que ce soit sportives ou autres, masculines, qui pourraient témoigner. Et puis une autre chose dont on parle peu, en fait, c'est l'influence aussi de notre mode de vie sur notre santé mentale, parce que l'alimentation, l'absence d'activité physique, le tabac, par exemple, impactent directement la santé mentale. Et moi, je suis encore atterré de voir dans des représentations télévisées des personnages qui, par exemple, se bourrent de sucre tout en étant présentés comme en très bonne santé. Je pense à une série récente sur TF1, donc pour pas la citer. Donc il y a des erreurs comme ça qui sont un peu diffusées de façon tacite dans les représentations. Et par contre, je suis un peu moins optimiste sur l'évolution dans la fiction, parce que là récemment on a eu le Bal des Folles et l'année dernière la série Ratched, qui reviennent encore à cette psychiatrie du 20e siècle, du début du 20e, avec des lobotomies, avec des camisoles. Enfin, on n'est plus du tout là-dedans. Et je pense que ce qui nous manque, c'est vraiment une bonne série moderne sur la psychiatrie.
Ratched, en référence à l'infirmière Ratched dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Tiens, écoutons le footballeur et animateur de télévision Jérôme Roten. C'était sur RMC Sport le 12 mai dernier.
C'est pas parce que tu réussis que tu flanches pas au bout d'un moment. La concurrence, elle existe aussi.
Et puis aller voir un coach et lui dire je vais moins bien.
Non, ça peut être pénalisant.
Il te fait pas jouer.
Exactement.
Et puis en fait, tu fais jouer un autre qui peut éventuellement te piquer ta place. Et
tu montes pas tes faiblesses. Regarde, moi, je te dis, à 13 ans, 14 ans, mais même au centre de formation, ça peut arriver d'avoir des coups de blues parce que t'es loin de ta famille. Personne m'a vu pleurer, moi. Personne, pas mais un mec, parce que je me cachais. Mais bien sûr, mais tous les soirs. Pendant 6 mois, tous les soirs. Et c'est très très compliqué, et j'étais pas le seul, hein. J'ai pas vu un autre gamin pleurer, et pourtant j'étais pas le seul à pleurer, je peux te le dire, parce qu'après on s'est revus derrière et on était tous dans un état sur les six. Alors il y en a ça dure 2 mois, il y en a ça dure 4 ans, 4 mois, il y en a d'autres ça dure 1 an, mais c'est long, hein. Vous imaginez tous les soirs comme ça, loin, comme ça, où t'as un entraîneur qui te demande beaucoup, parce que dans le foot c'est comme ça, t'es en concurrence, et si tu montes pas des choses, bah tu prends la porte,
et c'est tous les jours,
et après t'as l'école aussi, parce que t'as un certain niveau d'études à avoir, donc tout ça c'est une pression particulière.
Le footballeur Jérôme Roten sur RMC Sport le 12 mai dernier. Alors le tabou de la santé mentale frappe notamment le monde du sport de haut niveau, et je cite la psychologue Meriem Salmi, toujours dans Marie-Claire, ils ont peur, les sportifs, d'être exclus ou moqués, car encore aujourd'hui cela reste une honte de traverser un épisode dépressif ou d'avoir des troubles anxieux dans le monde du sport. Comment expliquer au fond cette honte, cette culpabilité? Est-ce que nos sociétés qui vouent un culte à la performance
performance absolument inouïe. Est-ce que nos sociétés sont responsables de cette honte et de cette culpabilité, docteur Guillaume Font?
Alors, en fait, il y a une ambivalence dans notre société, parce que de plus en plus, quand même, on valorise le fait de sortir de sa difficulté. Donc, la dépression peut apparaître comme un effondrement, mais ce qui est important, c'est la façon dont on va se relever après, et on peut en faire un récit. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être valorisé, mais par contre, il y a une méconnaissance autour de ce qu'est la dépression, et effectivement, ce doute autour du fait qu'il s'agit d'une vraie maladie, alors que par contre, pour, effectivement, on l'avait dit, hein, une hernie discale, par exemple, tout le monde sera d'accord pour dire qu'il y a un problème de santé. La dépression, ça fait débat. Et donc, comme il y a cette méconnaissance dans la population et cette stigmatisation, les personnes n'osent pas en parler, alors que finalement, c'est une épreuve comme une autre.
Est-ce que nos sociétés de performance sécrètent cette culpabilité, cette honte autour de la santé mentale, docteur Schneider?
Moi, je crois qu'il y a toujours eu honte et culpabilité autour de la santé mentale. Alors, aujourd'hui, c'est peut-être encore plus nécessaire d'aller bien, d'être toujours en forme. Quoique, effectivement, moi, j'ai beaucoup de patients qui n'ont pas dit à leur conjoint qu'ils étaient malades. Hein. Alors, surtout s'ils se sont rencontrés récemment, alors là, c'est pas la peine d'y penser, qu'ils prennent un traitement encore moins. Mais néanmoins, il y a des occasions qui facilitent la consultation. Par exemple, vous êtes endeuillé. Là, vous pouvez dire que vous allez consulter. Même si vous consultiez bien avant, ça peut permettre d'annoncer.
Une rupture.
Oui, alors c'est pas forcément ça, mais ça peut permettre d'annoncer qu'on est suivi, qu'on voit quelqu'un, qu'on voit un psy. Et puis il y a aussi une autre chose, le Covid, qui, avec les ravages qu'il a fait, a permis aussi aux gens de dire « mais moi je vais pas bien ». Et donc d'aller demander des soins, demander de l'aide, ce qu'ils n'auraient pas fait avant. Et ils ont bien fait de le faire.
Catel Poulicain.
Ouais, on a cité dans l'article de Marie-Claire là qui est en kiosque depuis la semaine dernière, 87% des Français et des Françaises atteints de dépression ne l'ont jamais confié à leur famille. Juste pour revenir à ce que vous disiez juste avant, Ali, en effet, on en parle dans des milieux plutôt privilégié,
oui,
culturellement,
exactement.
Économiquement, parce qu'il faut aussi parfois avoir les moyens de consulter. Et c'est pas toujours aussi simple, même s'il y a eu des annonces faites récemment. Mais je voudrais mettre un petit bémol aussi sur le côté la narration qui peut être faite autour de la dépression ou du récit qu'on peut en faire, et le piège aussi de dire finalement je suis passé par là et j'en suis sorti plus fort. Ce fameux piège de la résilience obligatoire, de raconter qu'on a souffert et donc on va mieux. Je pense que pour certains, en tout cas, ça peut aussi être... parfois, on va mal, quoi. Et on a été mal et on n'en tire pas forcément quelque chose de positif. Je fais juste ce bémol. Et je sais qu'aux États-Unis en particulier, moi, j'ai reçu un message, par exemple, suite à l'article qu'on a publié, un Français vivant en Amérique, qui me disait, attention, parce qu'aux États-Unis, finalement, il faut faire de tout échec une réussite, hein, ou en tout cas, un instrument de sa réussite. Et ça peut être culpabilisant aussi. Donc, c'était juste une petite remarque.
Docteur Jean-Yves Blanc, sur la remarque pertinente de Catel Poulicain.
Effectivement, alors Jean-Victor.
Jean-Victor, pardon.
C'est, pas de problème. C'est effectivement, il ne faut pas que ça soit une injonction en plus. C'est sûr que, et c'est un peu un des écueils, alors des représentations que je peux utiliser dans les films, et notamment dans le groupe de psychoéducation, par exemple, pour le trouble bipolaire qu'on a à l'hôpital Saint-Antoine, où on utilise des films, ou d'ailleurs des récits de célébrités. Il faut pas non plus que ça devienne, Beyoncé, elle a dit qu'elle avait fait une dépression du postpartum un mois avant sa tournée, et ensuite elle a fait sa tournée, tout s'est très bien passé, donc il faut devenir ça. Moi, l'idée, le message que j'essaie de faire passer, c'est si jamais ça vous arrive, il faut consulter, il y a des solutions, c'est pas une fatalité, c'est pas une honte, c'est pas de votre faute. Il y a aujourd'hui beaucoup de solutions qui sont psychothérapeutiques, qui sont médicamenteuses ou autres, et des solutions en devenir également, donc c'est pas une fatalité les troubles psychiques. Ceci dit, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, il faut pas non plus en faire une injonction en plus, en disant aujourd'hui quand on est déprimé, il faut se secouer, parce que c'est vraiment ce qui marche pas pour le coup. Et il faut absolument en faire quelque chose et en faire un livre ou un film, bien évidemment. Ça peut être sinon intimidant, et puis finalement ce serait encore un ordre en plus qui reposerait sur ces personnes concernées.
Docteur Jean-Victor Blanc, je vous laisse à votre consultation. Merci d'avoir participé à cette émission ce matin. Dans quelques instants, on s'intéresse aux tabous autour de la dépression. Et en attendant, on écoute Iggy Pop, The Passenger.
Interpréter The Passenger.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
10h33 et ce matin on s'intéresse au tabou de la santé mentale. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Sans oublier de laisser un message ou une note vocale sur l'appli France Inter. Hors antenne, docteur Aurélie Schneider, vous nous disiez une chose très importante sur le rapport entre le tabou de la santé mentale et le retard diagnostique.
Oui, parce que si on a trop honte, on se sent trop coupable, eh bien, on va finir par avoir un retard diagnostique, puisqu'on ne veut pas s'avouer à soi-même que ça ne va pas et donc se soigner. Et on sait que les troubles psychologiques, notamment la dépression, qui est quand même d'une fréquence effarante, abîment les structures cérébrales. Donc, toute notre intelligence, toutes nos cognitions vont être attaqué par ce fléau, avec des conséquences qu'on connaît, les conséquences pour soi, le risque suicidaire, et puis les conséquences sur l'entourage. Enfin, vraiment, pas de retard diagnostique, c'est mauvais pour la tête.
Ouais, ben nous, ça va être en septembre, parce qu'on devait partir début août avec des potes, et ma collègue va être arrêtée, du coup, je dois la remplacer tout l'été.
Oh, dommage.
Et en congé mat ? Non, dépression, ben, je crois. Genre, dépression plein mois de juillet. Moi aussi, je vais me faire arrêter pour dépression, tiens.
Je ne te souhaite pas. Elle doit être bien malade, tu sais.
Franchement, elle avait pas l'air.
C'est la médicalisation de la flemme.
Ouais, enfin, la vraie dépression, et je parle pas du coup de déprime, hein, c'est pas rien. Votre tante, par exemple, elle a été très très mal. Elle le dit pas, mais c'était une épreuve vraiment difficile. Elle a été soignée pour ça.
Non, mais la dépression, comme si ça se soignait. Faut se bouger. Moi, ça m'insupporte les gens qui ont tout et qui cherchent des raisons pour se faire plaindre. Et des gens qui ont des vraies raisons pour souffrir. Alors, d'accord, hein, on a tous des moments difficiles, c'est normal, c'est la vie. Mais à un moment donné, il faut se retrousser les manches et il faut juste arrêter de se regarder le nombril.
Tu ne dirais pas à quelqu'un qui a fait un AVC de se mettre un coup de pied au cul?
Moi, je suis d'accord avec Damien. C'est pas en restant à pleurer dans son lit qu'on fait avancer les choses. Et c'est pas en prenant des pilules qu'on trouve le bonheur.
Si on en est à confondre la quête du bonheur avec la dépression...
Tu vois, c'est typiquement pour ça que ta tante n'a rien dit, pour ne pas prendre ce genre de remarques.
Extrait de la campagne « Et toi, ça va ?» de la Fondation Pierre Deniker. J'aimerais donc qu'on s'attarde sur le tabou autour de la dépression. Pour l'écrivain William Styron, la dépression est un dérangement si mystérieusement cruel et insaisissable de par la manière dont il se manifeste au moi qu'il échapperait à toute description. Et justement, Hélène, sur notre page Facebook, nous demande comment expliquer à l'entourage ce qu'est la dépression quand certaines personnes ne croient pas en la dépression, ça rend les choses très difficiles. Docteur Guillaume Font.
En fait, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'injonction à aller mieux, moi, je suis complètement d'accord. Ça, c'est un problème de notre société d'une façon générale, hein, de vouloir absolument des gens performants dans tous les domaines, hein, un peu des machines, hein, c'est le meilleur des mondes. Et par contre, ce qui est important, c'est que dans la dépression, comme dans toute maladie, c'est une opportunité dont on peut se saisir pour interroger les causes qui ont mené à cet état. Donc les causes, on n'a pas toujours un moyen d'action dessus, ça peut être une part génétique, hein, par exemple. Et en même temps, ça nous renseigne quand même sur nos vulnérabilités, sur nos failles. Et ça, c'est une opportunité pour beaucoup de personnes, par cette porte d'entrée, de vraiment faire un travail qui va leur permettre de changer des choses dans leur vie. Et donc, ce que, pour moi, la réussite, c'est pas de retourner à ses intérieurs quand on disait Beyoncé et sa tournée. C'est une caricature. Justement, en fait, beaucoup de personnes avaient dans leur vie des choses qui ont précipité la dépression. Et donc, l'enjeu aussi du travail, c'est de faire en sorte qu'elles changent ces facteurs-là dans leur vie pour ne plus en faire un nouvel épisode.
Mais Guillaume Font, rappelez-nous précisément ce qu'est une dépression et quels sont les symptômes les plus fréquents. Peut-être définition à destination de ceux qui ne croient pas en la dépression, qui pensent que c'est une déprime passagère et qu'on peut, avec un coup de pied dans le derrière, s'en sortir. Expliquez-nous précisément ce que c'est.
Donc, la dépression, c'est une maladie neurobiologique. Ça veut dire qu'elle a une composante dans le cerveau. Donc c'est pas dans l'esprit, hein, c'est vraiment il y a une composante biologique et la biologie influence l'esprit et réciproquement l'esprit influence la biologie. Quand on fait une psychothérapie, on peut améliorer le fonctionnement de son cerveau. Donc il y a pas de différence entre le cerveau et l'esprit. C'est pas dans la tête au sens c'est dans l'esprit. C'est vraiment une maladie en fait et la psychiatrie est une discipline médicale, hein, donc on traite des maladies. Et donc à partir de là, en fait, les symptômes les plus fréquents qui caractérise la maladie, c'est soit une perte complète de plaisir, soit une grande souffrance morale, mais qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire que pendant plus de 15 jours en continu, on va ressentir des émotions très négatives qui vont impacter notre capacité à fonctionner. Et là-dessus, va se rajouter d'autres symptômes comme des perturbations du sommeil, des troubles de l'appétit, des problèmes de concentration. Ça va commencer à poser des problèmes au travail, dans la famille. Et donc, ça va faire un effet boule de neige, en fait, qui va conduire à un état de dépression sévère, souvent, parce qu'effectivement, il y a un retard diagnostique, alors que plus on arrive tôt et plus on peut améliorer la situation rapidement.
Docteur Aurélia Schneider, quels sont les tabous spécifiques qui frappent la dépression? Certaines idées reçues, hein, qu'on vient d'entendre, hein, dans l'extrait, autour de la dépression renforcent la stigmatisation de cette maladie.
Oui. Souvent, hein, souvent, c'est tu as tout pour être heureux. Ouais. Tout, en fait, voilà, tout va bien. Et en effet, il y a des causes parfois profondes, ou même pas forcément des choses qu'on peut repérer, mais un certain nombre d'enchaînements qui ne nous convient pas. J'ai été très sensible aussi à l'histoire de la maladie, les vraies maladies. Ça, vraiment, franchement, faut arrêter avec ça. Moi, j'ai eu un témoignage d'un patient merveilleux qui était séropositif, hémophile, et que j'ai soigné pour une agoraphobie. L'agoraphobie, c'est la peur de sortir de chez soi, c'est la peur de bouger. Et il était très handicapé parce qu'il ne pouvait plus travailler, puisqu'il travaillait, il allait à l'étranger. Je l'ai soigné, je ne l'ai plus revu, jusque 5 ans plus tard, où il est revenu à mon cabinet alors qu'il n'avait pas rendez-vous. Il est venu me dire, je suis venu vous dire quelque chose de super important que vous ne savez pas, probablement pas. Vous m'aviez soigné de quelque chose de plus grave pour moi que l'hémophilie et le sida. Il avait un sida post-transfusionnel, ce jeune homme. Il est venu me dire ça, autant vous dire que j'étais quand même pas mal émue, en me disant, mais en fait, ça n'avait rien à voir. Cette pathologie dont vous m'avez soignée, j'ai pu bouger, j'ai pu reprendre ma vie, le handicap était terminé. Eh bien voilà, c'est ça le problème, c'est le handicap. Donc, oui, parfois, sans qu'on s'en rende compte, on peut finir très handicapé.
Qu'a-t-elle Pouliquen de Marie-Claire.
Et, docteur, vous nous disiez tout à l'heure, hors antenne aussi, quelque chose d'extrêmement éclairant et intéressant. C'est, vous disiez que parfois, certains patients ont peur de la dépendance aux médicaments. Mmh. Or, vous disiez, ils ne se posent pas cette question pour d'autres
pathologies. Souvent, les patients, alors quand ils viennent, c'est déjà bien. Moi, j'ai coutume de féliciter les patients quand ils viennent à la consultation. D'abord, je leur dis, sans vous, je ne serai pas là. Et deuxièmement, c'est un exploit, bravo. Maintenant, on voit ce qui se passe pour vous. Le traitement, c'est encore une autre étape. Les gens ont très peur de devenir dépendants, notamment des antidépresseurs, c'est-à-dire de ne pas pouvoir l'arrêter. Or, un diabétique ne se pose pas la question de ne pas pouvoir arrêter son insuline. Et, ou un traitement antihypertenseur, on ne se pose pas la question de devoir l'arrêter. Et je crois qu'il y a toute une éducation à faire là-dessus. Non, on n'est pas dépendant. Non, on peut se soigner et on peut aussi guérir.
Docteur Font, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui n'osent pas consulter, car la dépression est associée à la fragilité, à la faiblesse? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Et à l'entourage également, peut-être?
Alors, déjà, pour ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, il y a souvent une confusion entre les antidépresseurs et les anxiolytiques. Donc, souvent, tout ce dont on a peur, ça concerne, en fait, les anxiolytiques, alors que c'est les médicaments qui sont très consommés à tort en France. Donc, comme Lexomil, Xanax, ce genre de médicaments. Et il y a une confusion avec les antidépresseurs. Et donc, quand on fait un premier épisode dépressif, on doit se traiter pendant 6 mois, en fait, après la disparition de la dépression. Donc, beaucoup de personnes, déjà, ne comprennent pas pourquoi 6 mois. C'est parce que c'est la période à risque de rechute la plus importante. Et si on fait plusieurs épisodes dépressifs, ça veut dire qu'on a une vulnérabilité à la dépression, comme on peut avoir une vulnérabilité au diabète et qu'on prend un antidiabétique pour éviter la dérégulation du sucre. Là, on parle de la dérégulation de la sérotonine et de la noradrénaline. Donc, pour les personnes qui souffrent de dépression, je les invite vraiment à aller consulter rapidement, parce que généralement, enfin, moi, c'est l'expérience que j'ai de tous les patients que je suis, hein, c'est qu'il y a une surprise vraiment très positive de voir que la représentation qu'ils avaient des psys, que ce soit psychiatre ou psychologue, finalement ne colle pas, en fait, et est plutôt agréable, puisque ça permet d'avoir un espace à soi et d'entamer un vrai travail à la fois sur le plan psychothérapeutique et sur le plan du médicament s'il est nécessaire.
Bonjour Louise, bienvenue.
Bonjour.
Vous appelez de Paris, quel est votre témoignage?
Exactement, merci de prendre mon appel. Moi j'appelle parce que, alors je trouve déjà, j'adore le sujet et il me touche particulièrement. Parce que moi, j'ai fait un burn-out après ma grossesse, après mon accouchement, mais pas tout de suite. Mmh. C'est-à-dire que j'ai accouché, mes enfants ont été hospitalisés parce qu'ils sont nés prématurés, et pendant plusieurs semaines, moi, je devais être forte. Enfin, voilà, il fallait que je sois là pour eux, il fallait que je sois là, il fallait que je sois forte. Et ça m'a un petit peu tombé dessus quand j'ai repris le travail, donc ils avaient 8 mois. Je savais pas ce que c'était. J'étais pas bien. Ça n'allait plus au travail. J'avais la pression d'être bête, d'avoir dans un brouillard permanent. Et j'ai compris, en fait, 1 an et demi plus tard, que je faisais un burn-out. Je l'ai compris en allant consulter chez une psychologue à la suite du premier confinement. Et ça m'a un petit peu tombé dessus comme moi. Donc moi, en fait, en gros, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que nous, les femmes, ou en tout cas les jeunes mamans, on est persuadés que le burn-out, la dépression postpartum, elle arrive, elle se passe dans les semaines après l'accouchement. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais en tête, c'est ce que je pensais. Je me dis, c'est la chute des hormones. Donc là, si j'ai pas ça, c'est que ça va, c'est que c'est autre chose, ou c'est que c'est rien du tout. Et il y a ce tabou, les jeunes mamans peuvent pas encore dire qu'elles sont fatiguées, épuisées, parce qu'on va nous dire, oh là là, c'est bon, t'es contente, tu les as voulu, tes enfants, ou d'autres choses comme
c'est
ça.
C'est dur de dire ça.
C'est souvent vrai,
oui.
C'est souvent
ça. Hein. C'est ça, mais c'est triste, mais parfois c'est la vérité, c'est ce qu'on peut nous dire. Et voilà, et moi, je voulais juste, pas communiquer, mais essayer d'en parler, parce que je trouve que c'est important qu'on dise aux jeunes mamans, la dépression postpartum, elle n'arrive pas dans les 3 semaines après l'accouchement, elle peut vous tomber dessus bien plus tard.
Et docteur Schneider.
Oui, ouais. Tout à fait, c'est dans les 2 ans, voilà, le temps. Où il faut faire attention.
Qu'a-t-elle Pouliquen?
Oui, là on fait œuvre d'éducation nous aussi à Marie-Claire. Ce sont des sujets dont on s'est emparé, mais dans la lignée de femmes qui ont témoigné, qui ont sorti des livres, très très intéressant et vraiment généreux au sens où ce sont des partages d'expériences qui font du bien à toutes les autres femmes. C'est vrai que souvent on reste seule avec son mal-être, on se dit qu'on n'a pas le droit de pas aller bien et parfois dans les grandes villes, les femmes, et pas que dans les grandes villes, mais les femmes sont extrêmement seules. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas forcément de famille autour d'elles pour les accompagner et en effet, l'angoisse, nourrissant l'angoisse, ça fait du bien d'entendre que c'est normal de peut-être avoir des coups de blues, même si on est par ailleurs très heureux d'avoir eu un enfant.
Merci beaucoup Louise d'avoir témoigné. Allez, il est temps de retrouver la chronique de notre médecin romancier Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment je suis venu un peu tôt. Quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Alors voilà Baptiste Beaulieu.
Oui, Ali, je voulais vous parler de ce patient. Il a 70 ans. Il est pas vieux, il est pas jeune non plus, entre deux. Je vais le voir deux fois par mois en visite à domicile. Je l'aime bien, il a la peau tellement fine, on dirait du papier à cigarette. Il se cogne beaucoup. Il a beaucoup de bleu, il saigne souvent. Il se méfie pas assez des coins de table. L'autre jour, je pars en consultation chez lui. Il est accoudé à la table de la cuisine. L'appartement est minuscule, la cuisine sert aussi de salon et de salle à manger. Le patient a dessiné sur un bout de nappe en papier la silhouette d'un personnage de dos, petit et rond, avec un chapeau qui lui cache toute la tête et qui se dandine sur une plage. Un petit chat trottine à ses côtés, et le patient a gribouillé ça au stylo bille. C'est joli, c'est simple mais joli, un trait sûr. « Ça, c'est Mr. Sheep », me dit le patient. « Quand j'avais 30 ans, j'avais dessiné plein de BD, et c'était le héros, Mr. Sheep, avec son chapeau en galette et toujours accompagné de son chat. J'aime beaucoup les chats, vous savez, docteur. » Ben, Mr. Sheep, m'explique le patient, il cherche d'autres Mr. Sheep comme lui, qui rêvent d'une vie meilleure et il en trouve plein. Et ils montent tous dans une rame de métro. C'est une rame de métro comme toutes les autres, un matin comme les autres. Mais il y a plein de Mr. Sheep dans la rame, avec leur chat et leur rêve de vie meilleure. Et comme ils sont nombreux, ils se disent que peut-être, s'ils rêvent tous en même temps, il se passera quelque chose. Alors ils se concentrent tous. Et là, le métro, la ville, Dieu ou je ne sais pas quoi, entend leur prière, leur espoir, et la rame se met à accélérer, accélérer, accélérer. Les couloirs du métro défilent de plus en plus vite, et la rame, vous voyez, docteur, elle accélère tellement que bim, elle explose le fond du tunnel souterrain du métro et qu'elle s'envole haut, si haut. Elle passe devant le soleil, puis elle retombe et glisse sur une longue, très longue plage ensoleillée et finit par s'arrêter dans le sable. C'est le matin, docteur. Il fait beau. On entend le bruit des vagues et tout est calme, tout est serein. On est bien. Et là, Mr. Sheep et tous les autres Mr. Sheep comme lui qui rêvent d'une vie meilleure, ben, ils sortent de la rame, ils mettent une main devant leurs yeux pour s'habituer au soleil, ils sourient tous, ils sont heureux. Et avec leurs chats autour d'eux, des chats blancs, noirs, roux et de toutes les couleurs, ils s'avancent vers l'océan. Et puis ils marchent dans le sable vers l'océan, puis ils s'y enfoncent. Tant et si bien qu'à la fin, il ne reste plus que leur chapeau rond qui dépasse du sable. Et là, on s'aperçoit que ce n'était pas une plage qu'ils ont tous rêvé. En fait, les Mr. Sheep, ils ont tous rêvé. Ils étaient toujours dans leur ancienne ville, dans leur ancienne vie, avec leurs anciens problèmes. Sauf que la ville, les problèmes, les ont engloutis et leurs chapeaux ronds se sont transformés en pavés. Et les pavés des rues sont les chapeaux des Mr. Sheep qui ont trop rêvé, trop espéré que la vie a mangé. Voilà. Le patient s'éteint une seconde après ce long récit, puis il cherche son paquet de cigarettes avant d'ajouter à demi-mot. Mr. Sheep, c'est un peu moi, je crois, docteur. Moi, j'ai respecté un moment de silence, puis j'ai demandé où étaient passés tous ces dessins. Mon ex-femme les a tous brûlés le jour du divorce, il me dit. Il allume sa cigarette, il me sourit un peu tristement. Je vous ai dit combien j'aime les chats, docteur. Moi, je l'aime bien, ce patient. J'assume totalement mon transfert, Ali. Parce que notre métier, il est plus beau quand on y reconnaît nos propres failles. Et j'ai pas pu m'occuper de mes grands-parents comme je l'aurais voulu. La vie n'est pas si nulle que ça, Ali. Elle nous permet de nous rattraper, on prend ses revanches où on peut.
La chronique très poétique ce matin de Baptiste Beaulieu à partager sur l'appli France Inter. Dans quelques instants, nous verrons quelles sont les solutions concrètes pour lutter contre le tabou de la santé mentale. Et on écoute Alexia Grédy en attendant.
De la douceur de tes mots, j'ai gardé juste le meilleur. Pour mes erreurs, les jours de trop, je n'ai jamais été à l'heure. Si les messages et les rancœurs restent ancrés dans mes os, parfois je pleure en décalage, j'aime l'amour vertigo. Je suis passée par le banc là où l'été est tombé entre toi et moi. Entre toi et moi, mon grand, il n'y a plus rien. si patiente, jour après jour, j'en fais le tour. Pourquoi j'ai peur, je paraphrase. Pourquoi je pleure en décalage. J'aime l'amour en vertigo.
Alexia Grédy interprétée Vertigo.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
10h51 et ce matin on s'intéresse au tabou de la santé mentale et nous accueillons Marie-Jeanne Richard. Bienvenue.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour, vous êtes la présidente de l'UNAFAM, l'Union Nationale des Familles et Amis de Personnes Malades et ou Handicapées Psychiques. Alors vous proposez, avant cette élection présidentielle, des solutions pour lutter contre les tabous autour de la santé mentale. Quelles sont pour vous les 10 mesures urgentes en faveur de cette santé mentale? Pouvez-vous nous en citer quelques-unes, en tout cas les plus importantes selon vous, Marie-Jeanne Richard?
Alors je vais vous en citer, bonjour, je vais vous en citer quelques-unes. La première, c'est faire de la santé mentale et de la psychiatrie une grande cause nationale. Mmh. Il est vraiment temps de mettre en lumière cette importance de la santé mentale et de lutter contre les préjugés. La deuxième que l'on peut dire, c'est l'importance d'avoir une agence nationale pour piloter tout ce qui concerne la santé mentale et la psychiatrie. Pas uniquement le sanitaire, mais également tout ce qui est social et médico-social. Mmh. Je vais dire une troisième, c'est effectivement de doubler le budget consacré à la recherche. Une maladie psychique, ça se soigne. Un handicap, ça se compense. Donc il est important de faire des recherches pour mieux comprendre les causes et du coup mettre en place les meilleures possibilité pour la personne d'aller bien et d'avoir une qualité de vie. Et puis je donnerai l'importance effectivement de former le grand public, de former les familles, de former les personnes directement concernées, de former les élus, les politiques à tout ce qu'est la santé mentale. Et là je mettrai l'importance des premiers secours en santé mentale pour qu'on sorte des préjugés, on sorte de ces images que l'on colle aux personnes, incohérence, violence, paresseux, veut pas soigner. Il faut en sortir avec ces préjugés.
Docteur Guillaume Font, je rappelle que vous êtes psychiatre.
Oui, évidemment, je souscris à tout ce qui a été dit. On a de gros problèmes de financement dans la recherche en psychiatrie, hein, je suis bien placé pour le savoir. Donc, il y a énormément à faire. Et par contre, malgré ce manque de moyens, on a vraiment, à côté de ça, en fait, un dynamisme réel, hein, parce que donc la France participe vraiment en fait à l'effort international de recherche sur la santé mentale. Et rien que le fait de déjà que les gens sachent que ça existe, la recherche en psychiatrie, parce qu'il y a des personnes qui n'imaginent pas qu'on puisse faire de la recherche sur la santé mentale, parce qu'ils comprennent pas comment on peut évaluer des troubles mentaux, parce que ça ne se mesure pas, il n'y a pas de test biologique, ça ne se voit pas. Il n'y a pas d'imagerie non plus cérébrale qui permette de détecter des maladies ou d'évaluer des effets de traitement. Et donc à partir de là, on pense qu'il n'y a pas de recherche possible, alors qu'en fait on fait des pas de géant. Et tout à l'heure on a parlé de cette personnalité qui avait un lupus avec une dépression. Bah en fait le lupus c'est une maladie auto-immune qui entraîne un risque augmenté de dépression, parce qu'il y a un lien entre le système immunitaire et le cerveau, et ça on fait de grandes découvertes dans ce domaine-là. Donc c'est pour donner un message d'optimisme et pour renforcer effectivement le message auprès des décideurs qu'il faut vraiment investir là-dedans, parce que c'est un problème de santé publique numéro un.
Alors des assises de la santé mentale et de la psychiatrie se sont tenues fin septembre à Paris. Vous en êtes satisfaite, vous, Marie-Jeanne Richard, de ces assises?
Oui, bien sûr. Non, je pense que ces assises ont le gros avantage de faire sortir justement la santé mentale et la psychiatrie des murs de l'hôpital, dans lequel on a toujours tendance à remettre les personnes. on a complètement intériorisé la culture de la restriction, la culture de l'enfermement, et pas du tout celle de l'espoir pour les personnes qui ont des troubles psychiques. Donc en ça, les assises de la santé mentale ont redonné, ont fait sortir la santé mentale et la psychiatrie. Un coup de projecteur.
Merci beaucoup Marie-Jeanne Richard. On peut aller sur le site de l'UNAFAM, unafam.org. Tiens, pour terminer, docteur Schneider, docteur Font, vos conseils pour ne plus ressentir de tabou quand on souffre d'un trouble psychique ou quand on fait partie de l'entourage, docteur Schneider.
Écoutez, moi j'ai envie de passer un message simple, c'est-à-dire se dire que c'est pas parce qu'on a un problème psychique, une maladie mentale, soit chronique ou passagère, qu'on peut pas avoir une belle vie. Et cette déstigmatisation et le fait de dire mais arrêtons de penser qu'on est incurable, qu'on peut être dangereux. Oui, il peut y avoir des moments durs, mais on peut avoir une belle vie. Et faire un travail sur soi, c'est augmenter la connaissance de soi et c'est augmenter ses capacités à faire face à un prochain moment difficile, une prochaine épreuve. J'ai des patients qui s'en sortent mieux une fois soignés que bien d'autres qui ne se sont pas posés de questions et qui ne se sont pas soignés.
Docteur Font.
Bah, tout à fait. En fait, quand on a fait ce travail-là, en fait, on est déjà beaucoup plus attentif à la souffrance des autres. On devient une personne qui prend plus soin des autres. Donc ça, c'est quand même, entre guillemets, je vais être choquant, mais le cadeau de cette situation, c'est que justement, on prend conscience de ses propres limites et on fait beaucoup plus attention à celles des autres. Donc tout simplement d'assumer, en fait, et que vous serez pas seul, parce que donc on connaît les chiffres. Hein, quand vous allez parler de votre dépression, bah, en fait, vous allez vous connecter à beaucoup d'autres personnes qui ont fait une dépression sans jamais en avoir parlé.
Catherine Pouliquen, un mot de conclusion.
Oui, je pense que le fait qu'on soit réunis autour de ce sujet ce matin, déjà, c'est un signe que les choses évoluent. Je pense que ça donne de l'espoir.
Merci. Merci, docteur Aurélia Schneider, docteur Guillaume Font. Merci, Catherine Pouliquen. Le papier consacré au tabou de la santé mentale est à lire ce mois-ci dans Marie-Claire. Demain, nous verrons comment se construisent nos souvenirs.